c'est donc Aurélie Kiefer pour le journal. Bonsoir Aurélie.
Bonsoir Julie, bonsoir à tous. La veuve de l'ancien président rwandais Juvénal Habyarimana va faire appel. Elle ne se résout pas au non-lieu sur l'attentat qui avait coûté la vie à son mari et déclenché le génocide rwandais de 1994. Les États-Unis vont revoir leur politique de suivi des migrants arrêtés à la frontière, promesse faite après la mort d'un deuxième enfant en détention ce mois-ci. La justice belge ordonne à l'État de rapatrier 6 enfants de combattants djihadistes retenus avec leur mère en Syrie. L'État belge a 40 jours pour s'exécuter. Et puis en France, appel à la grève illimitée au sein de la police scientifique. Les 3 syndicats réclament ensemble la reconnaissance des risques particuliers liés à ce métier. Le dossier empoisonnait les relations entre Paris et Kigali depuis plus de 20 ans. Les juges d'instruction en charge de l'enquête sur l'attentat contre le président Habyarimana ont finalement rendu une ordonnance de non-lieu. Elle écarte la perspective d'un procès sur cet épisode déclencheur du génocide rwandais de 1994. Les juges ont suivi les réquisitions du parquet de Paris, qui avait réclamé l'abandon des poursuites contre des proches de l'actuel président rwandais, Paul Kagame. Mais la veuve de Juvénal Habyarimana va faire appel de la décision. Écoutez son avocat, Philippe Meillat.
C'est une décision, je ne vais pas vous dire qu'elle était attendue par mes clients. Dans un coin de leur tête, elles imaginaient qu'il puisse y avoir un non-lieu, mais elles en sont en tout cas extrêmement déçues. L'ordonnance nous dit on a des éléments. Ces éléments ont d'ailleurs justifié la mise en examen de 8 personnes. 7 personnes, une 8e étant visée par un mandat d'arrêt, mais finalement, au bout du compte, on considère qu'il n'y a pas d'éléments suffisants contre qui que ce soit. Et je peux vous indiquer que c'est extrêmement rare que dans une affaire criminelle où 8 personnes ont été mises en examen, eh bien, la procédure se solde par un non-lieu général. Donc nous, ce que nous demandons à la Cour d'appel, c'est ni plus ni moins que d'apprécier les éléments qui existent dans le dossier, mais faire une appréciation qui tienne compte du contexte très particulier dans lequel la procédure se déroule. Il faut bien avoir en tête que parmi les nombreux témoins, il y en a beaucoup qui ont disparu ou qui ont été enlevés. Je crois qu'il faut apprécier, comme toujours, mais plus particulièrement dans ce dossier, la force des témoignages sous l'angle des pressions subies par tous les témoins.
Maître Philippe Meillac, avocat de la veuve de l'ancien président rwandais Juvénal Habyarimana. Les parties civiles vont donc faire appel, mais ce non-lieu éloigne tout de même la perspective d'un procès contre des proches de l'actuel président du Rwanda, Paul Kagame, et conforte la stratégie de l'Élysée envers le Rwanda, Bertrand Galichet.
Oui, cette conclusion de la justice française pourrait mettre un point final à un dossier qui empoisonne ses relations franco-rwandaises depuis près d'un quart de siècle et surtout accélérer le rapprochement entre les deux pays voulu par Emmanuel Macron. Le président français a déjà rencontré à 4 reprises l'actuel numéro 1 rwandais, arrivé au pouvoir après le génocide de 1994. Paul Kagame a été reçu à l'Élysée au printemps dernier. C'était lors d'un déjeuner avec de grands patrons du numérique. Le Rwanda a l'ambition de devenir un acteur des nouvelles technologies en Afrique. Le principal gage donné par la France au Rwanda a été de soutenir la candidature de Louise Mushikiwabo, élue en octobre à la présidence de l'Organisation internationale de la francophonie. Une bienveillance destinée à faire oublier des années glaciales de suspicion mutuelle entre Paris et Kigali. Le Rwanda accusait la France d'avoir soutenu les génocidaires, tandis que la justice française se rapprochait de l'entourage de Paul Kagame dans l'enquête sur l'attentat contre l'ancien président Habyarimana. Officiellement, la destruction du Falcon 50 en plein vol le 6 avril 1994 à l'approche de Kigali restera donc un mystère. Paris prône désormais une politique pragmatique avec des pays comme le Rwanda, dont la reconstruction après le génocide sert d'exemple en Afrique, malgré les atteintes aux droits de l'homme dénoncées par les ONG. Une politique sans état d'âme, mais loin de la France-Afrique, centrée sur la zone d'influence historique de la diplomatie française.
Bertrand Galichet, émotion aux États-Unis. Le soir de Noël, un petit garçon originaire du Guatemala est mort en détention. L'enfant âgé de 8 ans avait franchi la frontière illégalement avec son père. En moins de 3 semaines, c'est le deuxième enfant à mourir dans ces conditions. Une enquête a été ouverte et le service américain de protection des frontières annonce qu'il va renforcer ses contrôles médicaux sur les enfants placés en rétention. On revient sur les faits avec Grégory Phillips à Washington.
Le petit Felipe Alonso Gomez, 8 ans, a été interpellé le 18 décembre, pas très loin d'El Paso, au Texas, avec son père, alors que tous les deux viennent de franchir la frontière illégalement. Le 24 décembre au matin, alors qu'il se trouve dans le centre de détention d'Alamo Gordo, l'enfant est pris d'une forte toux. Sa température avoisine les 40 degrés. Il est hospitalisé pendant quelques heures, puis ramené au centre. Le soir même, son état se dégrade. Les agents du service américain des douanes et de la protection des frontières, le CBP, le ramènent à l'hôpital où l'enfant meurt quelques heures plus tard. Les associations de défense des droits de l'homme réclament une enquête indépendante et veulent savoir si le garçon a reçu tous les soins appropriés. Quant au patron du service des douanes, Kevin McAlenan, il disait ceci ce matin sur CBS.
Ce qu'on voit, c'est un flot grandissant de familles avec des enfants qui passent la frontière illégalement et qui arrivent dans nos centres de détention. Or, ces centres n'ont pas été bâtis pour des groupes comme cela. Ils ont été construits il y a 30 ou 40 ans pour des hommes célibataires. Il faut une approche différente. Il faut que le Congrès nous aide, débloque des budgets pour l'aide médicale et pour accueillir les enfants dans nos centres.
Le 8 décembre dernier, c'est une petite fille âgée de 7 ans, elle aussi originaire du Guatemala, Jacqueline Calmaquin, qui était morte dans des conditions similaires. L'enfant a été inhumé avant-hier dans son pays d'origine.
Grégory Philips à Washington. En Belgique, comme en France, le rapatriement des enfants de djihadistes est un sujet délicat. La justice belge vient de se prononcer sur le sort de 6 enfants belges, actuellement retenus avec leur mère dans des camps de réfugiés dans le nord-est de la Syrie, en zone contrôlée par les Kurdes. Au nom des intérêts des enfants, un juge des référés du tribunal néerlandophone de première instance de Bruxelles ordonne à l'État d'organiser leur rapatriement. Les précisions d'Angélique Bouin à Bruxelles.
Les plus grands sont âgés de 6 ans, les plus petits sont nés l'été dernier. Ils vivent avec leurs deux mères, deux jeunes belges âgés de 25 et 26 ans, toutes deux condamnées par défaut à des peines de prison. Elles étaient parties en Syrie avec leur mari, des combattants de l'organisation État islamique. La magistrate qui a pris cette décision a manifestement entendu les arguments de leur avocat. Les enfants sont selon lui très dénutris, en danger et sans liberté de mouvement dans ce camp de réfugiés contrôlé par les Kurdes. Elle donne 40 jours à l'État belge pour organiser leur rapatriement, leur fournir des papiers ainsi qu'à leur mère, le tout dans un cadre sécurisé. Elle ajoute que même si les mamans sont incarcérées, un contact restera possible. En référé, le tribunal de première instance de Bruxelles a donc pris le contre-pied de la cour d'appel qui avait rejeté cette requête cet été. Jusqu'à présent, la Belgique faisait valoir qu'elle n'a pas de représentant consulaire en Syrie pour agir. L'État belge doit pouvoir recourir au personnel diplomatique d'un autre État de l'Union, précise le jugement de ce matin.
Et la décision de la justice belge doit être exécutée sous peine d'une astreinte de 5 000 euros par jour et par enfant. Moscou proteste contre les raids aériens israéliens menés hier soir dans l'ouest et le sud-ouest de Damas. La Russie dénonce une violation grossière de la souveraineté de la Syrie. En septembre déjà, la Russie, alliée de Damas, avait perdu un avion de reconnaissance à l'occasion de raids israéliens contre des positions iraniennes en Syrie. Aurélien Colli suit l'actualité de la région depuis Beyrouth.
Israël l'a dit et redit ces dernières années et son premier ministre l'a encore répété la semaine dernière après l'annonce du retrait américain de Syrie. Pas question de laisser sa bête noire, l'Iran, allié de Bachar al-Assad, menacer directement son territoire à partir de la Syrie, ni approvisionner en armes et en munitions son bras armé au Liban, le Hezbollah. Régulièrement, son aviation frappe donc des positions, des dépôts ou des convois d'armes iraniens en Syrie. Au grand dam de Moscou, protecteur de Damas, qui a vu en septembre un de ses avions de reconnaissance abattu par erreur par la défense syrienne qui tentait d'intercepter une frappe israélienne. En représailles, la Russie avait livré des missiles dernier cri au régime syrien, un système qu'Israël aurait déjoué la nuit dernière lors de nouveaux raids sur l'ouest et le sud-ouest de Damas. Mais les frappes ont été effectuées sous la protection d'avions de ligne, s'insurge aujourd'hui Moscou, qui cite en particulier un vol commercial qui a dû être détourné de la capitale syrienne où il s'apprêtait à atterrir. Toujours selon la Russie, c'est pour éviter une tragédie que la défense syrienne a limité sa riposte. La Russie qui dénonce une provocation et une violation grossière de la souveraineté syrienne. De son côté, Israël n'a pas coutume de commenter ce genre d'opération. Son armée s'est contentée d'un tweet indiquant qu'elle avait juste répliqué à un missile anti-aérien tiré de la Syrie.
L'affaire Benalla continue de peser sur l'Élysée. Limogé au mois d'août, l'ancien proche d'Emmanuel Macron, soupçonné d'avoir malmené des manifestants le 1er mai dernier, vit désormais à Londres. Alexandre Benalla s'est reconverti à l'international dans le domaine de la sécurité et de l'accompagnement des entreprises. Mais un voyage organisé au Tchad début décembre, 3 semaines avant le déplacement d'Emmanuel Macron dans ce pays, l'a remis sur le devant de la scène comme une nouvelle épine dans le pied du président. Et contrairement à l'été dernier où l'Élysée avait tardé à réagir, réagir. On sent cette fois une certaine fébrilité, et ce, de la part des deux parties, Alexandra Dubaucheron.
Pas question de refaire la même erreur. L'Élysée avait été accusée d'avoir dissimulé l'affaire Benalla, celle du 1er mai révélée par Le Monde. Et puis les Gilets jaunes sont passés par là. L'objectif de cette fois est donc de ne surtout pas abîmer l'image du président de la République. Le palais a donc réagi très vite aux révélations sur ce séjour tchadien. Il a d'abord indiqué ne plus avoir de contact avec l'ancien collaborateur depuis son limogeage en août dernier, et il a assuré ensuite que ce déplacement n'avait absolument pas pour but de préparer celui d'Emmanuel Macron au Tchad. Une réponse pas vraiment au goût d'Alexandre Benalla, qui lui aussi a répliqué très vite, dès aujourd'hui dans plusieurs médias. Il affirme qu'il accompagnait une délégation d'investisseurs étrangers pour un projet industriel de 250 millions d'euros. Rien à voir donc avec Emmanuel Macron sur ce point, au moins les deux versions concordent. En fin de matinée, l'Élysée a reconnu avoir été prévenu, bien qu'après coup, du voyage d'Alexandre Benalla. Reste que ces deux déplacements à 3 semaines d'écart, c'est une drôle de coïncidence. Alexandre Benalla a-t-il profité de ses anciennes fonctions pour faire des affaires? La présidence de la République n'écarte pas l'idée et rappelle qu'une enquête interne a déjà été diligentée à ce sujet. Des sous-entendus que ne digère pas le principal intéressé, Alexandre Benalla entend porter plainte pour propos diffamatoires, calomnieux et irresponsables de la part de personnes dans l'entourage du président. « Je ne me tairai plus », lâche-t-il dans une menace à peine voilée, mais sans en dire plus.
Alexandra Dubaucheron. À Valence, 4 gilets jaunes, dont une militante du Parti communiste, comparaissaient aujourd'hui pour l'agression du patron de la police de la Drôme le 8 décembre. Diane Sprimont, vous suivez ce procès au tribunal de grande instance de Valence. Le procureur réclame une peine exemplaire.
Oui, il demande une peine sévère, 1 an d'emprisonnement dont 6 mois de sursis pour les deux hommes de 22 ans et la femme de 37 ans. Et il demande 18 mois d'emprisonnement dont 6 avec sursis pour celui qu'il estime être le plus violent, celui qui, dit-il, vient vraiment pour foutre en l'air du flic. Et dans son réquisitoire, il a aussi demandé des amendes de 10 à 15 000 euros, puis l'interdiction de manifester pendant 3 ans. Et on a vu une vidéo au début du procès qui montre en partie les faits. Le procureur s'est dit effrayé par ces images, et pareil du côté de la partie civile. Pour elle, ce dossier est très violent et elle tapait du poing en condamnant une vague de haine envers ces deux policiers. En face, les avocats de la défense, eux, insistent. Tous les quatre ont un casier vierge. Ils ont tous les quatre été emportés dans un effet de groupe et ne sont pas là pour en découdre avec les flics. Les quatre prévenus se sont d'ailleurs excusés avant la suspension de l'audience.
Le tribunal doit rendre sa décision ce soir. Après un début de fronde au sein de la police, les gardiens de la paix ont obtenu la semaine dernière une revalorisation salariale. Demain, nouvel appel à la grève, mais il concerne cette fois la police scientifique. Les trois principaux syndicats réclament ensemble un changement de statut. Ils veulent être considérés comme des policiers à part entière, car pour l'instant, ils sont considérés comme des agents sédentaires, autrement dit, des employés de bureau. Leurs missions ont pourtant largement évolué depuis quelques années, notamment dans un contexte de menaces terroristes. Bonsoir Clotilde Ravel.
Bonsoir.
Vous avez recueilli le témoignage d'un agent de la police technique scientifique basé à Lille.
Karim a 42 ans, dont plus de 15 passés au sein de la PTS, la police technique et scientifique. Le 13 novembre 2015, il est dans les premiers à faire les constatations de l'attaque kamikaze du comptoir Voltaire.
Sur place, on était avec un terroriste qui était au sol, dont la bombe avait explosé. Voilà, il y avait du sang un peu partout. Il fallait retourner le cadavre parce qu'on nous a dit qu'il y avait aussi une bombe qui n'avait pas explosé sur la face antérieure. On a fait évacuer la zone pour pouvoir retourner le corps, enfin prendre les empreintes, parce qu'il fallait absolument identifier très rapidement le kamikaze.
Dans la nuit, il rentre à Lille avant d'être rappelé le lendemain pour mettre en place la cellule d'identification des victimes du Bataclan. Une semaine entière de travail, éprouvante psychologiquement comme physiquement.
La cellule d'identification, elle est composée de deux parties. Il y a une partie antémortem et une partie post-mortem. Donc la partie antémortem, c'est tout ce qui est en contact avec les familles pour essayer de recueillir le maximum d'informations sur les victimes. Et tout ce qui est post-mortem, c'est un inventaire en fait de toutes les cicatrices, tous les tatouages qu'on peut retrouver sur les corps, pour enfin conclure à une identification formelle. Ce qu'on a vu sur place, on ne pourra jamais l'effacer de nos mémoires. C'est pas du tout du travail d'administratif comme notre statut actuel le laisse entendre.
Au total, la PTS compte seulement 2400 agents. Karim souhaite que l'État reconnaisse les risques particuliers et la fatigue exceptionnelle auxquels leur métier les expose, d'autant que cette structure permet de résoudre un tiers des affaires judiciaires.
Clotilde Revel, le ministère de l'Intérieur a proposé à l'intersyndicale de la recevoir le 8 janvier, trop tard aux yeux des syndicats qui demandent au ministère d'avancer la rencontre. À l'occasion de la journée contre les violences faites aux femmes, il y a un mois, était lancée en France la campagne « Le point noir ». Ce point, que des femmes victimes de violences domestiques se dessinent sur la paume de la main, est un message d'appel au secours. Il est censé permettre d'alerter discrètement les professionnels. La campagne a notamment reçu le soutien du secrétariat d'État chargé de l'égalité entre les femmes et les hommes, du planning familial et de personnalité, comme Muriel Robin. L'initiative s'inspire d'une campagne britannique qui date de 2015. Mais au Royaume-Uni, The Black Dot Campaign a fait long feu, critiqué notamment par les structures de prise en charge des victimes. Les explications d'Aude Soufi à Londres.
Dessiner un point noir à l'aide d'un eyeliner ou d'un mascara sur la paume de sa main, l'idée est lancée au Royaume-Uni en septembre 2015 sur Facebook par une femme qui souhaite rester anonyme et se présente comme une ancienne victime de violences conjugales. Sur une page dédiée, elle explique ce qu'elle appelle la philosophie de cette campagne. Permettre à une victime d'alerter discrètement l'attention sur la situation dont elle souffre pour pouvoir engager la conversation. En une semaine, la page obtient 40 000 likes et partagée largement sur les réseaux sociaux et vue par des millions d'internautes. Une visibilité à double tranchant pour les associations. Gudrun Burnett travaille avec des victimes de violences domestiques.
La Black Dot Campaign a suscité beaucoup de critiques dès la première semaine au Royaume-Uni à cause des risques que cela pourrait faire courir aux femmes parce que les auteurs des violences comprendraient immédiatement que ce point noir est un moyen de signaler qu'elles ont besoin de soutien et d'aide. Et que donc ça pourrait les mettre en danger. C'est pourquoi beaucoup d'organisations ont dit que la campagne, même si elle était positive parce qu'elle attirait l'attention sur la question, devait être repensée en prenant en compte les risques que cela pouvait impliquer pour les femmes.
Selon les associations, d'autres moyens sont à la disposition des victimes pour lancer un appel à l'aide sans attirer les soupçons des auteurs de violences, notamment lors de rendez-vous médicaux ou avec les services sociaux.
Au Royaume-Uni, on milite beaucoup pour que les professionnels aient la formation adéquate pour identifier et reconnaître les abus domestiques dans différents secteurs, comme dans les services de santé, les urgences ou l'aide au logement. Cette campagne ne pourrait jamais remplacer ça. Cela ne devrait pas être à la victime de s'identifier avec un point noir, comme si c'était la seule façon pour les professionnels de le voir. Les professionnels doivent être formés pour cela.
Autre problème, certaines victimes ne sont même pas conscientes de devoir demander de l'aide. Jane a subi les violences physiques et psychologiques de son mari pendant des années, les cachant à ses proches pour, dit-elle, les protéger. Elle n'aurait donc pas pensé à dessiner un point noir dans le creux de sa main.
C'est difficile parce que ça commence très doucement et vous vous dites « ça n'est pas normal, ça non plus, ça n'est pas normal ». Mais vous ne vous dites pas que ce sont des abus, vous ne reconnaissez pas que c'est un abus.
Au Royaume-Uni, la campagne s'est évaporée aussi vite qu'elle était apparue. La page Facebook a été fermée 10 jours après sa création et personne n'utilise plus ce code du point noir. Les associations continuent leur travail, mais le nombre de victimes de violences conjugales ne connaît pas de baisse dans le pays. Tous les 4 jours ici, une femme meurt sous les coups de son conjoint.
Enfin, savez-vous que le trafic de dreadlocks est florissant à Johannesburg, la plus grande ville d'Afrique du Sud, est connue pour sa grande dangerosité. Dans le centre-ville, certains quartiers sont devenus des zones de non-droit où prospèrent tous les trafics. Trafic de drogue, d'organes, d'armes et depuis peu, trafic de cheveux. Les criminels s'intéressent plus précisément aux vrais dreadlocks qu'ils arrachent sur la tête des passants et revendent à prix d'or. Le reportage de Noé Ochebaudin.
Attablé dans un bar du centre-ville de Johannesburg, Longiswa regarde les passants avec méfiance. Cette communicante de 25 ans s'est fait voler ses dreadlocks dans la rue il y a 2 ans.
Normalement, je couvre mes cheveux avec un foulard. Ce jour-là, je ne l'ai pas fait. Et alors que je marchais dans la rue, 2 hommes sont arrivés vers moi. Je pensais qu'ils allaient prendre mon téléphone. Un des deux avait des ciseaux. Ils m'ont immobilisé et ont commencé à couper l'arrière de mes cheveux.
Des clients comme Longiswa, Majestic en a beaucoup dans son salon. Il commence même la coiffure à domicile car les clients ont peur de se déplacer. En ville. Les dreadlocks se revendent très cher, parfois 500 euros. Lui ne vend que celle de ses clients.
On les vend selon la longueur et la qualité. Ceux-ci sont pour le haut de la tête. Je peux les vendre un peu moins de 100 euros.
Les dreadlocks sont à la mode, donc les vols augmentent logiquement selon Majestic. En face de son salon, Calvin, gardien de parking, dit ne pas craindre pour ses cheveux.
C'est une partie de moi-même. J'ai fait pousser mes dreadlocks depuis que je suis petit, car les anciens disent que tes cheveux, c'est ta force. C'est comme continuer une tradition.
La police sud-africaine indique que peu de cas sont rapportés dans les commissariats. par honte, selon le porte-parole des forces de l'ordre.
Noé Hochet-Baudin à Johannesburg pour France Culture. Demain jeudi, beaucoup de nuages et de la bruine sur la moitié ouest, quelques éclaircies dans l'est. Les températures seront souvent négatives demain matin dans la moitié nord, comprises entre 0 et 10 dans le sud. L'après-midi, il fera 3 à 7 degrés du nord-est à la Normandie, 7 à 13 sur le reste du pays, 10 à 15 dans le sud-est. Ce journal a été préparé avec Mathilde Julien.